Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Cœur de patrimoine. On est fin décembre, c'est bientôt la trêve des confiseurs, l'heure est au bilan, peut-être aux fermetures de comptes, vous allez recevoir vos relevés, mais c'est aussi le moment peut-être de réfléchir à quelques stratégies de dernière minute avant finalement que le gong fiscal ne retentisse. C'est ce qui va occuper toute l'émission aujourd'hui. C'est parti pour Cœur de patrimoine.
Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
2025, quelle année ! On nous avait promis l'apaisement, on a eu la volatilité, on nous avait promis la reprise immobilière, on a eu, disons, un atterrissage contrôlé. Et côté fiscalité, le suspense aura duré jusqu'il y a quelques heures, hein, jusqu'à à l'automne, avec ce budget dit de redressement national et finalement cette loi spéciale qui se profile. Alors pour décrypter cette année charnière et surtout pour nous dire comment naviguer au cours des prochain mois, j'ai le plaisir de recevoir une grande voix de la gestion de patrimoine, Benoît Lombard. Bonjour Benoît.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous, le président de l'UCGP, Union des conseils en gestion de patrimoine. Benoît, si vous deviez résumer 2025, disons en un seul mot, je vous en donne quelques-uns pêle-mêle qui me sont venus, résilience, fatigue, opportunité, discernement, lequel, pourquoi ?
Aucun des vôtres, mon cher Cédric.
Bon.
Je dirais instabilité.
D'accord.
Instabilité fiscale, instabilité géopolitique, hein, puisque bien évidemment il y a les problématiques françaises, mais il y a les problématiques internationales importantes qu'on connaît, et instabilité politique, bien évidemment, avec ce feuilleton fiscal qui n'en finit pas, dont on a des réponses assez désagréables à présenter aujourd'hui.
Alors quel bilan vous tirez patrimonialement, j'entends, de cette année ? Quels ont été les temps forts, selon vous ?
Les temps forts, d'abord, on a des marchés actions qui ont été extrêmement positifs, hein, puisque je rappelle que le CAC, on a plus de 10, l'Eurostock 50, on a plus de 15. Aujourd'hui, tout peut changer encore dans les 10-15 derniers jours, mais à une performance qui est bonne, un Dow Jones qui est excellent, mais aussi, et ça c'est quand même un élément important que personne n'avait prévu, si je puis dire, c'est une forte dépréciation du dollar, non seulement contre l'euro, mais contre toute devise, ce qui fait que si on a un Dow Jones qui a fait 17, avec un dollar qui fait moins 15, on n'a pas gagné grand-chose pour un investisseur en euros. Et puis aussi, toujours sur le marché des actions, une reprise du marché japonais, dont on ne parle pas assez, peut-être 24% aujourd'hui,
ah oui.
Et des pays émergents qui retrouvent un peu d'appétit pour les investisseurs, mais c'est vrai que la croissance, elle est là. Elle est dans ces pays-là, elle est un peu moins aux États-Unis. En Europe, c'est pas si mal que ça, mais elle est bien repris dans ces pays asiatiques, pays émergents et Japon.
Alors, attaquons tout de suite, tiens, par le sujet qui fâche, celui de la fiscalité. Automne budgétaire houleux, on l'aura bien compris. On devait trouver 60 milliards d'euros d'économies ou de recettes. Et alors, on a tremblé, hein. On a tremblé pour le fameux PFU, hein, le prélèvement forfaitaire unique. On a tremblé pour l'assurance vie. Et au final, on peut se dire, finalement, Benoît, on ne s'en sort pas si mal ?
Bah, on va poursuivre, j'allais dire, les tremblements que vous évoquiez. Je rappelle que l'année dernière, il n'y a pas eu de vote de budget. Eh bien, il n'y en a pas eu non plus cette année, puisqu'on sait que la commission mixte paritaire, aujourd'hui, n'a pas arrivé à un accord. Les 7 députés et 7 sénateurs ne se sont pas entendus. Et donc, on va avoir un bis repetita. Hein, l'année dernière, il y avait une loi spéciale qui avait été votée le 18 décembre. Là, on est le 19 aujourd'hui, donc quand ça sera publié, ça sera peut-être après. Mais on va encore avoir une loi spéciale pour conduire le budget, parce qu'il n'y a pas de shutdown en France. Hein. Et c'est quoi cette loi spéciale ? Bah, reconduit, donc à l'identique, par effet miroir, le budget pour cette année à celui identique à l'année dernière. Mais ce qui veut donc dire que la partie recette ne va pas bouger, la partie dépenses non plus. Or, on devait avoir des économies, puisque, nous rappelle le gouverneur de la Banque de France, il s'agit de faire des économies. On va être à 5,3 du PIB en déficit, tandis qu'on devait être en dessous de 5. Si on n'a pas de loi de finances, ce que nous n'avons pas, on le sait aujourd'hui, eh bien, on aura un déficit qui va se creuser. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer, à l'instar de ce qui s'est passé en 2025. En 2026, on va avoir une loi de finances qui va être votée. L'année dernière, c'était au mois de février. Cette année, je ne sais quand. Et puis là, on aura des nouveautés fiscales. Des nouveautés fiscales qui vont être assez désagréables, parce que même le Conseil des prélèvements obligatoires, une émanation de la Cour des comptes, a demandé un allègement de certaines taxes.
Il y a des tas de choses dans ce rapport.
Et puis une augmentation d'autres. Hein, on aura l'occasion de parler. Donc là, on est dans encore une nouvelle fois dans un climat d'incertitude. On a beaucoup parlé du projet de loi de financement de la sécurité sociale, où on sait que la réforme majeure de Macron, du président Macron, n'a pas été tenu. Eh bien là, on a un budget qui n'est pas tenu non plus, qui n'est pas voté, et bien évidemment, une incertitude pour l'année prochaine.
Qu'est-ce qui impacte le plus les épargnants, vos clients, finalement, aujourd'hui?
Cette instabilité. Vous parliez, une des réformes depuis 2017 importante, c'était quand même la flat tax. La flat tax, je rappelle qu'il y a deux composantes, c'est 30%. Oui. Et on a voulu remettre la fiscalité à l'endroit. 30% pour les plus-values, 30% pour les revenus de capitaux mobiliers, 30% pour l'assurance vie qui en retire. C'était simple, lisible. Mais cette flat tax, elle a connu deux dégradations. Une, qui est la contribution exceptionnelle sur les revenus. Mais quand je parle de la contribution exceptionnelle sur les revenus, elle n'est pas exceptionnelle. Elle existe depuis 2012. Bon, donc ce qui fait que oui, pour les contribuables les plus aisés...
On pourrait rajouter la CDRH, là...
Attendez, c'est pas fini. Ça. On va en parler, la contribution différentielle. Il y a l'exception, il y a la différentielle, il y a tout. De toute façon, là, du coup, l'inventivité fiscale est au rendez-vous. Ce qui veut dire que les 30% deviennent 34%, mais pire encore, on se souvient tous du film de Jean-Jacques Benex, 37,2 le matin, là c'est 37,2 tout le temps, puisque la contribution différentielle sur les revenus, c'est 37,2, dont on a l'occasion de reparler, et qui a été votée cette année, en 2025, dans le cadre de février 2025 du budget. Mais pour avoir des rentrées fiscales cette année, eh bien, tous ceux qui doivent la payer, vous devez l'auto-liquider, ouais. 95%, à hauteur de 95%, entre le 1er décembre et puis le 31 décembre. Il reste encore quelques jours.
Il ne faut pas se tromper.
C'est d'une complexité absolue. Donc, je vous fais grâce de l'équation qu'il faut essayer de résoudre, mais elle est compliquée.
Et du coup, elle s'installe durablement, cette CDHR ?
La CEHR, qui date de 2012, on est en 2025, elle a 13 ans. La contribution différentielle des revenus, effectivement, à mon avis, elle va être là pour un petit moment. D'autant plus que je rappelle que cette année, l'État, en 2026, pardon, l'État va être obligé de chercher 310 milliards d'euros, trois fois les rentrées fiscales de l'impôt sur le revenu, sur les marchés, et également 75 milliards d'euros d'intérêts de dette, trois quarts de l'impôt sur revenu, rentrées fiscales de l'impôt sur revenu. Franchement, il va être temps de calmer non pas les dépenses, la France est le pays qui a le plus fort taux de prélèvement obligatoire en Europe, mais il va être temps de calmer les dépenses, pardon. Oui.
Bon, cadre fiscal qui se durcit, hein, et vous avez rappelé ou parlé de ce conseil des prélèvements obligatoires, qui a plein de propositions. Le rapport a quand même fait pas mal de bruit, c'était il y a quelques jours, entre guillemets. Notamment, il y a le pacte Dutreil. Alors là, c'est un super outil patrimonial qui est en risque.
Pacte Dutreil, je rappelle que ça permet de pérenniser les emplois, parce qu'on pérennise les entreprises. Et au lieu de se retrouver avec des héritiers qui sont obligés de vendre l'entreprise pour payer les droits... Bon, on va dire, voilà, si vous anticipez, si vous faites attention, si vous pérennisez cette entreprise, vous allez avoir un allègement des droits. Je rappelle que le pacte Dutreil donne une exonération de 75%, hein, donc au titre des droits de donation ou de succession. Donation si on anticipe, succession si ça arrive et que ça n'a pas été prévu, il y a le réputé acquis qui existe, qui permet de rentrer dans le cadre de dispositifs dans les 6 mois qui suivent le décès. Bon, mais en Espagne, par exemple, ils ont un Dutreil aussi à 90%. En Allemagne, ils ont des exonérations assez importantes. En Italie aussi. On serait le seul pays d'Europe qui taxe nos entreprises, tandis qu'on va avoir le grand saut de génération, où je crois qu'on a plus de 500 000 entreprises qui doivent être vendues, puisque les dirigeants vont partir à la retraite, et donc ils vont arrêter de travailler. Ils peuvent être actionnaires passifs, mais auquel cas, ça ne va pas incentiver, comme on dit, les nouveaux dirigeants. Hein. Bon, donc dans les 10 à 15 ans à venir. Donc là, attaquer le pacte Dutreil, parce que c'est une économie fiscale, en réalité, si on l'attaque, ça va être une déperdition d'emplois.
Alors voilà, donc ça c'est la question fiscale, on n'en a pas...
Mais il y en a d'autres, hein, sur le CPO. Ouais, le CPO, il dit aussi qu'il veut réformer l'assurance vie, hein, je rappelle. Ouais. Il veut alléger les droits de mutation à titre gratuit, mais il veut augmenter la taxation de l'assurance vie. Donc là, attention. Et puis, dans le CPO, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est qu'on se rend compte que la charge fiscale, on l'oublie, la charge fiscale des particuliers, c'est 25%, ça retombe sur 25%, sur la taxe foncière. Hein, avec l'augmentation très forte qu'on a connue. Et donc ça touche tout le monde.
Oui. Il paraît qu'on avait supprimé la taxe d'habitation, mais on a doublé la taxe foncière.
On a augmenté la taxe foncière.
La nature a horreur du vide. Tiens, tant qu'on en est dans le foncier, parlons un peu de la pierre. 2023-2024, c'était plutôt le crash. 2025, on nous avait promis la stabilisation. Alors c'est vrai qu'on a vu les taux baisser, avec la BCE notamment. On est redescendu sur les crédits habitat. Ça respire un peu, mais on n'est pas passé sous les 3%. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que, du coup, le conseiller en gestion de patrimoine que vous êtes, il dit à ses clients, ouais, l'IMO, c'est toujours bien. bilan, les prix suivent, enfin voilà, comment est-ce que...
Non mais c'est vrai qu'il y a une stabilisation du marché, il y a quand même des grandes disparités régionales.
Les Français, ils adorent ça, hein,
bien sûr, mais il y a des grandes disparités régionales, on est en manque de logement, on a une taxation quand même qui est très très lourde sur les revenus fonciers, hein, je rappelle qu'ils sont, eux, ils n'ont pas la flat tax, hein, ils sont pas 30%, ils sont au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Les LMNP, location meublée non professionnelle, là, il y a une réforme qui est
partie. Ils ont pris du plomb
dans l'air. Là, il faut réintégrer les amortissements que vous avez pratiqués le jour où vous vendez. Donc, on voit que la petite musique fiscale de progression de l'impôt est toujours présente. Donc, disparité régionale, disparité aussi selon qu'on est dans le bureau, selon qu'on est dans... Et on sait qu'à Paris, notamment, il y a une désertion des bureaux, hein, quand même, on le constate régulièrement, lorsqu'on se promène dans Paris pour voir le nombre de bureaux qui sont alloués. Donc, il y a une disparité aussi sur l'immobilier entre la province Paris, le résidentiel, l'habitation et, bien évidemment, on l'a vu, l'entreprise, les bureaux.
Mais c'est le moment d'acheter ou pas ?
Les taux.
Parce que les taux, bon, les on sait taux. Qu'ils redescendront a priori pas sous les 3%.
Ils sont un peu descendus quand même. Ouais. Hein, donc on a eu un pic et ils descendent en ligne, j'allais dire, avec la politique monétaire de la BCE et on sait que les taux directeurs ont un peu baissé. Mais pour autant, il y a quand même des interrogations qui se posent sur cette fiscalité, sur aussi le coût de la pierre, le prix du foncier. Le prix du foncier, il est exorbitant, il est complètement décorrélé du revenu disponible. Il y a naturellement des dossiers qui sont, des études qui sont faites sur ce sujet. Qu'est-ce qu'il faut gagner pour pouvoir vivre dans le centre urbain, non seulement de Paris, mais des grandes villes ? Et donc là, à un moment donné, il y a un peu de surchauffe.
Bon. Les SCPI, c'est...
Bah, SCPI,
il y a eu une crise quand même. Ouais. On a l'impression quand on entend les promoteurs de SCPI que ça y est, c'est fini, c'est derrière nous. Qu'est-ce que vous
Cédric,
en pensez ?
Les SCPI, c'est comme si vous disiez les SICA parce que c'est intéressant. Il y en a tellement.
Ouais,
il y a tellement de... Non,
faut savoir
il y a
faire
eu des
choix,
fortes corrections. Il faut regarder les valeurs de reconstitution des SCPI. Il faut regarder la diversification. Il faut regarder les sous-jacents. Donc, est-ce que c'est du commercial ? Est-ce que c'est de l'habitation ? Est-ce qu'il y a là encore une vraie diversification ? Et on peut trouver des SCPI qui retrouvent un attrait pour l'épargnant, justement, suite à cette décote importante qu'on connaît depuis 2 ans.
Allez, on quitte la pierre pour l'assurance vie. Vous en avez dit un mot au moment de la fiscalité, mais c'est vrai qu'on entend pas mal de monde qui, quand on fait ce bilan, nous disent « Ah, 2025, c'est une année exceptionnelle ». Avec une grande surprise, c'est le retour des fonds euros. On les avait dit oubliés, morts, et pourtant.
Eh oui, ils reviennent. Rappelons qu'en 2022, quand on a eu une crise obligataire importante, puisqu'on était entre moins 13 sur la dette des entreprises à 5 ans, à moins 18 sur les emprunts d'État à 10 ans, moins 18. Hein. Et bah, malgré le fait que les fonds en euros détiennent 80% d'obligations, ils ont donné un rendement positif. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas en marque tout market, ils sont en marque tout modèle. Et là, puisqu'on a eu des taux qui redeviennent attractifs pour les compagnies d'assurance, eh bien, ils donnent des bonus sur les fonds en euros. C'est pour ça, pour drainer de l'épargne. Mais quand même, malgré le fait qu'il y a ces bonus sur les fonds en euros, malgré le fait que c'est une stabilité, 2100 milliards, il y a en assurance vie en France. C'est énorme. Une collecte phénoménale cette année, puisque je regardais les chiffres ce matin pour préparer notre émission. On a 160 milliards de collectes depuis le début de l'année, à fin octobre. Ces derniers chiffres, fin octobre 2025. C'est énorme. Mais malgré le fait que vous disiez que les fonds en euros avaient retrouvé de l'appétit, il y a 38% d'unités de compte. Donc, il y a une vraie diversification. Et puis, il y a aussi, indépendamment de l'assurance vie, avec un vrai succès, une collecte nette positive, hein, puisque là, je parlais de collecte brute, il y a le PER. Le PER, c'est quand même un formidable outil. 105 milliards
d'euros.
On rappelle, un
plan d'épargne retraite pour...
Le plan d'épargne retraite.
Quelques-uns qui n'auraient pas l'acronyme.
Et je rappelle que jusqu'à la fin de l'année, on peut défiscaliser, hein, le montant qu'on met dans les PER. 15 milliards d'euros de collecte sur les 10 premiers mois de l'année. Plus de 105 milliards d'euros empaquetés, si je puis dire, dans le PER. Et le PER, il y a aussi des fonds euros, mais il y a aussi des unités de compte. Et là, comme on a un temps long, il faut aller chercher du rendement ailleurs que sur un taux garanti.
Juste petite question au passage, puisque vous nous rappelez la temporalité du PER et le fait qu'on peut défiscaliser jusqu'à la fin de l'année. Quel conseil on peut donner aux auditeurs là ? Il faut faire la course un peu aux produits de défiscalisation one shot ou c'est à utiliser après audit, on va dire.
C'est bien évidemment utilisé après audit. Le PER, c'est pas une fiscalisation one shot. Hein, donc vous investissez dans un actif qui doit vous permettre de constituer...
Oui, c'est pas un Girardin, c'est pas...
Non, et quand on parle de retraite, je m'amuse quand on entend toujours parler, faut-il développer la retraite par capitalisation ? En France, il existe, c'est le PER, c'est l'outil universel. Avant, il y avait tout un tas d'outils différents selon la catégorie de votre travail. Donc, si vous étiez fonctionnaire, ce n'était pas le même que si vous étiez indépendant, qui n'était pas le même que si vous étiez salarié. Aujourd'hui, il y a un outil universel qui est le PER. Le PER, c'est la retraite par capitalisation. Le PER, ça vous permet d'économiser aujourd'hui de l'impôt pour demain vous constituer une épargne que vous pourrez ponctionner en sifflet, au fil de l'eau, comme vous l'entendez, pour compléter vos revenus, dont on sait pertinemment que le taux de reconstitution et que le taux que votre retraite sera ouais. inférieur à ce que vous gagnez auparavant.
Voilà.
Bon, donc le PER, c'est un super méga outil qu'il faut regarder, non seulement à la fin d'année, mais tout le temps. Et j'allais dire, le meilleur moyen d'investir, c'est de lisser tous les ans, une petite ponction, tous les mois, pardon, une petite ponction sur votre compte pour alimenter votre PER. C'est le meilleur moyen pour investir en lissant les investissements dans le temps pour vous constituer une retraite future.
Vous êtes président de l'UCGP, donc des conseillers en gestion de patrimoine. Du coup, j'aimerais bien aussi
pas de tous les conseillers, non, hein, non. des membres.
J'aimerais bien aussi qu'on dérive un petit peu sur d'autres sujets qui peuvent résonner dans la tête de vos petits camarades CGP, et puis peut-être aussi des clients, et notamment celui de l'intelligence artificielle. Quand on regarde toutes les enquêtes, on s'aperçoit que les CGP l'utilisent de plus en plus, régulièrement, nous disent quasiment 30% d'entre eux. Qu'est-ce que ça vous inspire de voir cette IA ?
Bien sûr. L'intelligence artificielle, c'est un outil.
C'est un outil qui va pas vous remplacer. Elle va pas vous remplacer.
Mais non, mais
que ce soit Claude, que ce soit Gemini, ils vont pas remplacer Benoît Lombard.
Je suis éminemment remplaçable. la quintessence du conseil, c'est quoi ? C'est la connaissance parfaite, non seulement de la situation patrimoniale des clients, non seulement de leur situation financière, non seulement de leurs revenus, de leurs dépenses, mais aussi de la famille, de l'environnement, de la psychologie, de la manière de se comporter, de la culture, de l'histoire de la famille. Bref, tout un tas d'éléments. Vous pouvez remplir ça, remplir votre bécane de tous ces éléments. Ça m'étonnerait qu'il puisse remplacer un conseiller. En revanche, le conseiller, il est augmenté. Il a un usage qui est l'IA pour essayer d'aller chercher. Moi, je l'utilise aussi tous les jours, hein, l'IA. Ça me sert à quoi ? Ça me sert à aller sourcer donc mes recherches. Ça me sert à vérifier ces éléments. Si jamais vous allez vous demander à l'IA des aspects extrêmement techniques, vous êtes certain d'avoir des références de qualité, mais la synthèse, elle n'est pas toujours. Donc, et là, du coup, il faut de l'intelligence pour pouvoir aller rechercher ces synthèses. Ça, c'est pour des recherches qui relèvent, on va dire, du juridique, du fiscal, un domaine que j'adore. Mais sur la recherche de allocation d'actifs, je vous propose d'aller regarder sur ChatGPT, Gemini,
ou d'autres, ouais.
Donc Mistral, donc le cherchait, donc de demander quelle allocation d'actifs devez-vous avoir pour 2026. Là, vous allez être surpris. Et à la fin, il va vous demander d'aller voir un conseiller. Et vous savez quoi ? L'IA a raison.
Bon, donc c'est c'est le CGP augmenté par l'IA pas remplacé.
Bien sûr. Mais comme tout, et puis vous savez, l'IA, ça repose sur la data. Hein. Donc la première des choses, c'est d'avoir de la data, d'aller chercher l'information, d'aller sourcer l'information. L'IA, c'est un accélérateur pour aller chercher de l'information.
Allez, il nous reste quelques minutes. On se projette un peu maintenant à l'aube de 2026. Quels sont les signaux faibles, finalement, que vous captez, peut-être grâce à l'IA aussi ? Il y a quoi ? C'est la géopolitique ? C'est l'incertitude française ?
On a parlé d'instabilité fiscale. C'est quand même un élément assez stressant pour les Français. Je rappelle qu'il y a, moins d'un mois, un journal économique qui a publié un sondage. 75% des Français sont insatisfaits de la politique fiscale. Ils estiment qu'elle est inéquitable. Ils estiment qu'il y a trop d'impôts, qu'il n'y a pas de lisibilité. Bref, ça ne va pas. Ça, c'est un premier point. Et nous, on est là, les conseillers, pour essayer de les aider dans ce méandre, dans cette complexité fiscale.
Oui, que élection présidentielle et ou législative à venir, on reparlera fiscalité.
On va avoir un budget, puisqu'il n'a pas été voté, on le sait aujourd'hui, qui va être présenté en janvier, février, qui va être voté. Mais je rappelle que les élections municipales, c'est le 15 mars prochain. Donc ça risque d'être un peu chaud entre la gauche et la droite. Et je ne parle pas des extrêmes. Donc ça risque d'être compliqué. Donc instabilité et naturellement, pas de lisibilité à cause de ces élections municipales qu'on va avoir le 15 mars, où ça va se radicaliser. Deuxième point, la croissance, bien évidemment. On sait que la croissance, elle est prévue l'année prochaine en Europe, en France, pardon, à 1%. On anticipe un peu plus de 2. Donc, 2,5%, je crois, au niveau international. Donc, cette croissance, elle fait qu'on n'est pas en décroissance, oui, par hypothèse, et que donc, on a toujours des gisants de performance. Et là, encore, il faut être diversifié. Et la diversification sur le marché des actions, sur des valeurs refuges, comme sur l'or. Hein. L'or, je rappelle, 140% de performance en 3 ans. Cette année, on a 64%, on
est à 30%.
Donc, les cryptos, pour en parler, ça pourrait faire l'objet d'une émission complète. Moi, j'aime bien drainer l'épargne de mes clients, drainer l'épargne des Français, militer pour alimenter l'économie réelle. Alors, c'est pas les cryptos, c'est les entreprises, c'est les PME, c'est nos ETI, c'est toutes ces entreprises qui ont besoin à la fois d'avoir de l'equity, des actions pour renforcer leurs fonds propres, mais aussi de l'obligataire. Et l'obligation corporate a toujours de l'intérêt, je crois, encore, malgré le fait que les taux ont un peu baissé.
On va terminer un peu comme j'aurais aimé qu'on le commence. Je vous ai suggéré de commencer en retenant un mot, et puis vous avez disqualifié mes quatre propositions.
Ah non, je n'ai pas disqualifié, j'en ai donné un autre.
Mais voilà, pour conclure, juste votre message, le message de Benoît Lombard pour 2026.
Diversifiez, diversifiez et diversifiez votre patrimoine. Ne soyez pas monolithique. Et puis soyez aussi assez malin pour essayer de vous projeter. Et c'est quoi les meilleures des projections ? C'est l'anticipation. Anticipez vos projets, prenez le temps de la réflexion et puis suivez le plan que vous avez décidé à l'instant T. Parce que si on change de cheval trop souvent, eh bien la monture ne sait pas où elle va.
Merci beaucoup Benoît. Benoît Lombard donc et l'Union des conseillers en gestion de patrimoine dont vous êtes le président. Merci d'avoir dressé ce bilan sans concession de cette année 2025. Voilà, c'était Cœur de patrimoine, vous l'avez compris, l'année dernière ou cette année qui se termine, c'est selon, aura été une année de résilience pour la gestion de patrimoine, fiscalité mouvante, immobilier convalescent, assurance vie de retour ou triomphante, et 2026 s'annonce tout aussi passionnante avec un lot d'incertitudes mais aussi d'opportunités. Pour qui sait s'entourer de bons conseils. Alors profitez bien des fêtes de fin d'année, prenez soin de vous et prenez soin de votre patrimoine.
Cœur de patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.